Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Et à tous, c'est Empreinte. Nous sommes ensemble pour une heure pour ce nouveau numéro de notre magazine culturel. On va parler théâtre, on va parler littérature. On parlera théâtre, Hélène, dans un petit moment avec toi, avec une pièce formidable, oui, de Dario Fo, mais vraiment formidable, qui s'appelle On ne paye pas, on ne paye pas, et qui est d'une qualité évidemment.
Exactement. Et qui s'appelle No Pagare.
Voilà, folle. Et qui est reprise, qu'il avait créée au Théâtre de la Tempête. J'en avais parlé à l'époque déjà, et ça, on peut en parler et en reparler. Enfin, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et puis, Agnès sera là tout à l'heure pour s'entretenir avec Alain Françon, le metteur en scène de En attendant Godot, de Samuel Beckett. Voilà, c'est à toi.
Oui, ben justement, bonjour. En attendant Godot, ça m'avait permis d'avoir une très bonne note, un examen, un concours de l'éducation nationale. Donc j'ai un certain souvenir. Je m'en étais bien débrouillé.
Oui, parce que c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est un piège, Beckett, hein, dans les textes,
etc. Oui, mais c'est très, très intéressant, justement, pour mettre en place des éléments d'analyse d'un texte avec des élèves, y compris des élèves de lycée professionnel. C'est vraiment très, très intéressant.
Bien.
Bien, un bon départ. Alors, bon, bah, un bon départ, je vais aussi vous parler quand même du bilan, ça fait longtemps que je voulais le faire, du Salon du Livre 2023, organisé par une association très dynamique sous les couvertures d'Argenteuil, et puis une édition très, très originale. D'abord, qui devrait intéresser quand même de multiples établissements scolaires.
Mais je pense que ça va se faire dans la foulée.
L'originalité de ce salon, c'était d'être organisé sur 2 jours avec la collaboration étroite de la direction du lycée Georges Braque d'Argenteuil. 2 jours de salon avec des multiples activités dans tout l'espace du rez-de-chaussée de ce lycée populaire d'Argenteuil. Un très bon bilan, 3000 personnes, un chiffre d'affaires important. Pourquoi j'évoque cet élément-là? Parce que le livre, il faut qu'il circule, il faut qu'il s'achète, et en tout cas, eh bien, des meilleurs chiffres d'affaires de vente de livres, de mangas, de BD, jeunesse, adultes, vraiment quelque chose de remarquable. Et puis surtout, une synergie donc entre cet établissement accueillant, entre une association locale très dynamique sous les couvertures, une dizaine d'autres associations locales invitées qui ont une activité autour de la culture et finalement une véritable cité éducative. Alors j'aime pas trop la politique gouvernementale vis-à-vis de l'éducation nationale, mais en tout cas le terme de cité éducative, eh bien on l'a réalisé pendant 2 jours avec des associations, avec une collectivité sous la forme d'un lycée. Ce qui est dommage, c'est que la municipalité d'Argenteuil, eh bien n'a jamais répondu à nos demandes de la rencontrer. Alors c'est vrai que sous les couvertures et ce salon du livre déplore la perspective de la vente de la salle des fêtes municipale où étaient organisées les éditions précédentes de ce salon du livre et puis vendre cela à un promoteur. Bon, donc enfin bref, ils nous boycottent, mais bon, malgré le boycott de la troisième ville de la région parisienne, eh bien un très grand salon populaire avec des jeunes et puis encore une fois avec une synergie remarquable. Alors je vais tout de même vous parler après ce très bon bilan, eh bien, de au moins de deux livres que j'ai lu, des gros livres, hein, donc qui m'ont occupé ces dernières plusieurs semaines. Alors, il y a un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est les parcours de lecture. Comment on lit un livre et pas un autre? À tel moment, le problème des conseils, des rencontres, des conseils des bonnes librairies, et puis des hasards. Le premier, c'est un hasard de boîte de livres à la MJC d'Argenteuil, où il y a une boîte de livres. Puis là, j'ai vu un beau volume, gros volume folio. Moi, j'adore folio, hein, au niveau de la facilité de lecture. Et donc, immédiatement, j'ai récupéré, puisqu'il m'est offert, ce gros livre. Et d'un auteur que je ne connaissais absolument pas, Janos Zekely, un écrivain hongrois qui a tout un périple, qui a connu tout un périple aux États-Unis. Alors, ce livre, pas gai, hein, je commence justement par celui-là, c'est l'itinéraire d'un enfant, d'un adolescent, dans la Hongrie de 1930. Et la Hongrie de 1930, c'est du rail. C'est la dictature d'un dénommé Horthy. La survivance d'un écart de classe extraordinaire avec les grands propriétaires terriens et puis la misère paysanne, et donc en plus un itinéraire familial très compliqué. On marche pieds nus dans ces années-là, qu'il neige ou qu'il vente, et il peut neiger fortement en Hongrie l'hiver. Eh bien, c'est l'itinéraire d'un enfant pauvre, mais qui se pose tout un tas de questions, et qui va se retrouver, eh bien, la migration vers la ville, qui va se retrouver à Budapest, dans des milieux tout aussi misérables, mais qui a la chance d'être embauché dans un grand hôtel. Dans un grand hôtel, alors on retrouve justement toute cette physionomie sociale de la Hongrie de l'époque. Il est groom, des rencontres pour le meilleur et pour le pire, pour le désespoir ou l'espoir, mais en tout cas un itinéraire difficile, mais qui le mène tout de même à toute une réflexion, à une certaine conscience, mais dans une configuration vraiment très complexe, mais qui pourrait être celle de bien des situations d'enfants aujourd'hui encore à l'échelle du monde. Alors, son espoir, eh bien, comme pour bien des individus assaillis par la pauvreté, par une impasse de perspective, eh bien, c'est l'immigration. Ça sera l'immigration vers le rêve d'Amérique, les États-Unis, où, dans les faits, eh bien, l'auteur est parvenu d'aller. Et c'est sans doute très autobiographique, son roman, mais un très grand intérêt, donc, historique, et puis social. Pas gai, hein, 600 pages, voire davantage, pas très gai. Je rappelle le titre, hein, L'enfant du Danube, de Janos Zekely, paru chez Folio. Alors, là encore, hasard des rencontres de lecture. J'aime une très bonne librairie quand je vais dans les Côtes d'Armor, à Lamballe. Il y a une librairie, La Cédille, avec des vrais libraires. Et quand je les vois, une fois tous les deux mois, disons, alors qu'est-ce que vous avez lu comme livre extraordinaire? C'est ma formule. Et puis, bon, ils me proposent tel ou tel livre. Et là, une découverte d'un très, très grand roman qui m'était totalement inconnu. Mais vous voyez, sur le coup de cœur, le petit mot coup de cœur, il y avait marqué le mot magnifique. C'est le roman Corps et âme d'un écrivain américain aujourd'hui décédé, Frank Conroy, paru chez Folio également. Alors pareil, hein, c'est comparable au niveau de... C'est un gros livre, 685 pages, là. Et là encore, hasard du conseil de lecture, eh bien, un itinéraire d'enfants, d'adolescents, jusqu'à l'âge adulte, alors dans une configuration bien différente. Mais un enfant pauvre, de milieu extrêmement modeste, mais qui lui, rapidement, va être passionné, eh bien, par une passion que j'imagine extraordinaire, qui est celle de la musique, qui est celle du piano. Je dis extraordinaire, alors moi j'écoute de la musique comme bien des auditeurs, mais je suis loin quand même de la musique, de tous ses problèmes, de toute sa formation, etc. Et il est beaucoup question de musique, et puis de technique, de théorie de la musique dans ce livre. Quand on ne s'y connaît pas, c'est un petit obstacle, mais c'est tellement bien écrit que ça en devient de la poésie.
C'est un roman qui a été publié quoi, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années.
Voilà, en 93.
C'est ça, hein,
Bien, tu vois, plus.
Parce que le temps que ça reste chez Folio, c'est en général 5 à 10 ans. Donc.
Voilà, mais. Un petit obstacle de lecture, c'est très 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 bien mené et on est dans un univers de parcours, si vous voulez, bien différent, avec des obstacles quand on grandit dans un milieu modeste, voire très pauvre, y compris aux États-Unis, mais on est aux États-Unis et il va devenir virtuose et vraiment un très très un grand roman. Bref, un grand roman. Alors, je vais terminer simplement. Encore une minute.
Oui, bien sûr.
Hein,
oui, oui.
Alors, « Et il dansait le dimanche ». Un très beau titre. chez un très bon éditeur, Liana Lévy, dans la collection Piccolo. Vraiment, qui sort des très bons livres avec un effort typographique que j'apprécie énormément.
Oui, c'est important.
« Et il dansait le dimanche ». On est là encore dans les années 25-30.
C'est au pluriel ou au singulier, pardon ? Ils dansaient le dimanche ?
Au pluriel.
D'accord.
Et donc, alors, hasard de mes lectures, eh bien, autour d'un personnage qui est une émigrée hongroise, dans la pauvreté toujours des années 30 en Hongrie, et qui arrive embauchée. Eh bien, comme ça continue à se faire, hein, où il y a des démarcheurs qui vont sur place et qui recrutent des gens bien portants, avec des muscles. Et là, en l'occurrence, pour embaucher dans une usine de soie artificielle à Vaux-en-Velin, donc dans ces années-là.
Wow.
Donc, des conditions de travail très, très, très difficiles. Les problèmes de sécurité... Eh bien, très hard, mais une histoire ouvrière des années 1930, avec des immigrés qui sont de diverses nationalités, arméniennes, hongroises en l'occurrence, italiennes et autres, mais où il y a de la fraternité, de la solidarité dans les difficultés. Et ils dansaient le dimanche, eh bien, parce que le dimanche... Eh bien, c'est l'éclaircie dans des jours quand même très difficiles. Et puis, où le bal populaire, c'est un élément où on retrouve cette solidarité, cette fraternité, et puis, puis l'amour encore de la musique, qui est bien différente par rapport à celle que j'évoquais, mais c'est le jazz, c'est l'accordéon, c'est la musette, et puis c'est également le folklore des pays d'origine, de ces migrants. Un très beau petit roman, parce que roman petit par rapport au...
Oui, c'est pas les 800 pages.
Voilà, les 700 pages ou les 685 pages des précédents, et surtout très bien écrit. L'auteur, Paola Pigani, elle soigne son écriture.
Voilà. Elle est écrite en français ou elle a été traduite par...
C'est une autrice française.
D'accord, super.
D'origine italienne.
Vu le nom, d'accord.
Comme dans la région, dans les Rhône-Alpes, il y en a... les communautés d'origine italienne étaient très importantes, à Vaux-en-Velin, à Grenoble en particulier, et ailleurs.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, Dominique. On se retrouve dans une quinzaine de jours.
Ben, plus.
Plus que ça, oui. Non, c'était début avril, oui, parce que voilà. Voilà. Bon, ah. Bah, tant pis, on attendra. Bon. On aura
ça
plus.
Me laisse le temps de lire énormément et de vous sélectionner de ce qui m'a paru comme étant des très bonnes.
Nous, lectures. On n'a pas tous autant de temps pour lire, mais là, du coup, le fait d'avoir plus de temps, on peut peut-être essayer de s'attaquer à ce bouquin de 800 pages. On n'est pas obligé de terminer tout de suite.
Mais absolument.
Mais c'est une. Ça me paraît une bonne idée.
Bah en tout cas, par les temps qui courent, Conroy fait.
Ça, c'est un immense auteur. Merci beaucoup, Dominique. À la prochaine. On marque une pause maintenant et on appelle donc
Bernard
Lévy pour la pièce de Dario Fo. On ne paye pas, on ne paye pas.
Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper. Oye, la mía, no me dañen el vibe. Se fue la señal, no le tengo reply. Pon la mano en el sky. Sube la high, high, high. Go. Estamos peleando en el party. Tú sabes quién es tu daré. Aquí le llega everybody. Legales también ilegales. Como tú nadie baila. No pare, pare, pare. Síguelo hasta mañana. No pare, pare, pare. Aquí todo el mundo se liquidó. Acabando con el líquido. Soy callado pero no tímido. Esta fiesta la hacemos los dos.
Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper.
DJ, turn it up. This here is my song. Baby, let's burn it up. I wanna party all night long. I've been working so hard, it's time for dirty bit. The weekend's here, let's go out, get lit. And start some shit and set the roof on fire. Let's party, party, party. Baby, tú y yo bailamos como rock that body.
Go!
Baby, that's how we roll. We go loco, out of control. Light up the fuse, make it explode. Shake that rapido, come on, let go.
Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper.
Depuis le 3 mars et jusqu'au 18 mars, à La Tempête. Donc La Tempête, je vous le rappelle à tous et à toutes, c'est à la Cartoucherie. Et je vous signale au passage d'ailleurs que la navette a été déplacée. Donc il faut traverser juste la route pour aller chercher notre navette, qui est bien pratique pour nous emmener jusqu'au théâtre. Une pièce de Dario Fo et Franck Aramé au titre clair et net, « On ne paie pas, on ne paie pas ». Pour nous en parler, le metteur en scène Bernard Lévy est au téléphone, moyen simple de communiquer en ces temps de revendications. Bonjour Bernard Lévy.
Bonjour.
Alors, je vous présente d'abord, mais enfin, si c'est nécessaire. Vous êtes comédien, metteur en scène pour des opéras et des pièces de théâtre, notamment, alors j'ai choisi hein, les noms d'auteurs qui vont parler à nos auditeurs et auditrices, mais bon, il y en a eu tellement. Il y a Beckett, Ionesco, Racine, Lagarce, Feydeau, donc une grande, grande variété de répertoires, et... Vous avez créé la compagnie Lire aux éclats en 1994. Alors d'abord, pourquoi avez-vous donné le nom de Lire aux éclats à votre compagnie de théâtre ?
À l'origine, c'est le titre d'un livre qui s'appelle « Lire aux éclats, oui. Éloge de la caresse », qui est un livre écrit par Marc-Alain Wachnin. Et c'est un livre qui a été important pour moi quand je l'ai lu, et ça se situait à peu près peut-être un an avant la création de ma compagnie. Et je trouve que voilà, c'est un livre qui dit tout. C'est un livre qui parle essentiellement, enfin, évidemment, parle de beaucoup de choses, mais ça aborde l'herméneutique. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir cette technique aussi dans la lecture des textes. Pour un texte théâtral, c'est-à-dire faire émerger la multiplicité des sens qu'il peut y avoir dans un texte.
D'accord, bon, comme ça c'est très clair. Alors vous reprenez une pièce de Dario Fo et Franck Aramé écrite en 1974. Est-ce qu'on peut parler d'abord un petit peu de ce couple d'auteurs comédiens italiens engagés ? Pourquoi avoir choisi, donc de votre point de vue, de mettre en scène une de leurs pièces ?
Alors, peut-être une petite précision. Cette pièce-là a été écrite en 74 avec le titre « Faut pas payer ».
Voilà.
Mais elle a été un peu actualisée en 2008 suite à la crise des subprimes. Et à ce moment-là, le titre a changé. C'est donc « On ne paie pas, on ne paie pas ».
Oui.
On ne peut plus monter en « Faut pas payer ». Mais maintenant, cette pièce-là. Pourquoi je l'ai choisie ? Oh, parce que c'est, à mon sens... la plus grande comédie contemporaine.
Oui,
je crois qu'il n'y a pas de texte mieux écrit, mieux pensé. Moi, j'appelle ça une sorte de machine de guerre théâtrale.
Oui,
tellement c'est efficace, tellement c'est... Voilà, alors ça, c'est pour la forme, la structure. C'est une pièce donc géniale de ce point de vue-là, mais c'est aussi une pièce qui aborde une thématique qui, à l'époque, existait déjà dans les années 70,
et
on se rend compte qu'elle
continue,
est un peu plus
exactement, à être tout à fait d'actualité aujourd'hui.
Elle est un peu plus actuelle maintenant.
Tout à fait. Alors, la pièce, vous l'avez déjà mise en scène en 2021, également à La Tempête, et donc elle est jouée à nouveau actuellement, ce qui fait, comme vous le disiez, Bernard Lévy, largement écho à ce qui se passe en France aujourd'hui.
Voilà. Parce que
quand je
en
dis
fait,
aujourd'hui,
on l'a créé au moment du Covid,
voilà.
On n'a pas réellement joué, on l'a présenté comme ça trois fois, parce que sinon c'est trop frustrant de travailler et de rien ne présenter, donc on l'a présenté devant des amis, et là maintenant réellement on a repris le spectacle à Grenoble il y a 15 jours, et maintenant à La Tempête, avant de partir en tournée.
Voilà. Alors, on va revenir un petit peu donc à On ne paie pas, on ne paie pas. C'est une pièce qui est incroyable. Comment commence l'histoire ? Juste le début de l'histoire.
Ouais, ce sont deux femmes, en fait, plutôt une femme qui s'appelle Antonia, qui va faire ses courses et qui constate, pas seulement elle, mais l'ensemble des femmes qui sont là, que les prix ont extrêmement augmenté, et elle décide de dévaliser le supermarché.
Voilà.
Donc
alors, ce qui est drôle, c'est que elle est d'abord elle toute seule, et puis ça va faire écho à d'autres, et puis finalement toutes les femmes vont non pas prendre conscience parce qu'elles le savent bien, mais avoir envie d'en faire autant, de partir ou en payant le juste prix, ou même en ne payant pas du tout. Donc on va pas rentrer
Ce sont toutes les femmes du quartier.
C'est ça.
Ça se situe dans un milieu populaire italien.
On est à Milan en fait.
Où, des valises.
Oui.
Je précise que cette situation s'est passée au moment du Covid.
Oui.
En Italie et pas très longtemps en France, je crois aussi.
Oui. Bah oui. Et c'est une situation assez logique, on va dire. Donc pendant 2 heures, sans une seconde de répit, je dois dire, les événements vont se succéder avec deux couples. Antonia, donc, vous en parlez. Mais alors elle, Antonia, avec des ressources d'imagination, mais incroyable, une imagination fertile, mais tellement drôle en plus. Et son amie Margherita, qui n'est pas tout à fait comme elle. Et puis les maris. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le couple Antonia-Giovanni. Le mari, donc, lui, il est assez respectueux des lois. Alors que Luigi, le mari de Margherita, il est plutôt prêt à l'action, lui. Alors, voilà. Donc, en tant que metteur en scène, je trouve qu'elle n'est pas facile à mettre en scène, cette pièce. Comment est-ce que vous avez travaillé pour faire rire, parce que La pièce dure 2h05 et on rit pendant 2h05. Bon, allez, disons pendant 2h. Mais franchement, c'est d'un comique, c'est d'une absurdité. C'est, voilà, c'est très, très, très drôle. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour faire rire de ce qui finalement est révoltant? Alors ça, c'est les auteurs qui le font, mais c'est le metteur en scène. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé?
Alors, d'abord, je suis pas tout seul. Il y a le texte qui déjà en lui-même est tellement bien écrit au niveau du langage, mais aussi au niveau de la cocasserie des situations.
Oui. Des
donc,
rebondissements.
Il y a d'abord le texte, après il y a le choix des comédiens.
Oui.
Évidemment que je choisis des comédiens qui ont un potentiel comique dans leur jeu.
Et dynamique, on va dire.
Ouh. Pardon.
Et dynamique,
forcément.
Oh là là,
oui,
c'est incroyable.
Ça appelle forcément un dynamisme.
Oui.
Après, ensuite, je cherche pas je ne cherche pas à faire rire quand je répète au début. J'essaye de comprendre la situation et puis d'être au plus près de oui. Après, au bout d'un moment, le rire émerge parce qu'on est tellement proche de ce qui se dit, de ce qu'on comprend. Et après, c'est un travail qui, bon, quand vous voyez la représentation, peut paraître, vous avez dit que c'était pas facile, peut paraître comme ça, fluide et tout ça, mais pour arriver à cette fluidité, pour arriver à faire sortir tous les moments drôles,
oui.
C'est long, c'est des fois laborieux.
Oui, je m'en doute bien. Hein, on a l'air de rien, mais c'est pas vrai du tout. 2 heures de rythme comme ça, absolument infernal, je dirais. Bah, c'est évidemment un travail qu'on comprend. C'est évident.
Alors voilà, après, moi, je rajoute forcément des gags, je rajoute des choses qui sont dans l'esprit de ce que je voulais donner au départ, c'est-à-dire une sorte de mélange entre le néo-réalisme italien avec Toto, Dino Rizzi, Ettore Scola, tous ces gens-là, le burlesque à travers Chaplin,
exactement,
Peter Keaton, Fedot, Labi. Je convoque tous les univers comiques, ceux qui me plaisent, et j'essaye d'en faire une sorte de mayonnaise comme ça.
Et ça prend, hein. Je peux vous dire que ça prend très très bien. Absolument. Alors, revenons au grand thème, parce que effectivement, c'est extrêmement drôle, mais c'est en même temps extrêmement sérieux. Donc, Dario Fo et Franck Aramé, dans cette pièce, nous parlent des usines délocalisées, de la maternité simulée, des forces de l'ordre, du supermarché et de la hausse des prix, du pape, alors bon, et surtout, je dirais, de la solidarité, de l'indignation, et même, j'ai envie de dire, à l'intérieur des couples, même si c'est pas toujours facile, mais on sent quand même de l'amour entre... et moi, ça m'a beaucoup touchée.
Oui, il y a tous ces thèmes-là qui sont abordés. Et je rajouterais aussi une certaine critique des partis politiques, une critique du corps politique, une critique même des syndicats, une autocritique de j'allais dire peut-être même de son passé à Dario Fo, puisque Dario Fo était engagé à gauche, très à gauche, et on sent bien qu'il y a une sorte de désillusion, une façon d'avoir critiqué le corps politique italien, mais on pourrait dire que c'est européen, voire mondial.
Exactement. Nous allons nous interrompre pour une toute petite pause musicale et on reprend cet entretien, Bernard Lévy. À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. J'avais 15 ans et un peu moins de poils. J'étais pas comme les autres gosses, moi tout seul au fond de la classe. Elle était mannequin, elle avait de la classe. Moi j'étais pas beau gosse, mais putain ce qu'on s'est aimé. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. Je fraudais pour venir la voir dans son check-son. C'était le sujet de mes premiers sons. Ouais, ouais, ouais. On des heures sur la machine à laver. J'étais un homme, un vrai. Son boule me faisait saigner du nez. Ah ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette gola c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. C'était l'amour fou, on se faisait des playlists. On refaisait le monde, on se faisait des plaisirs. On mangeait des grecs, on fumait des clopes comme des grands. On se disait, vieux, on se roulera des pelles sans les dents. Puis un jour, c'était plus la même. Elle se tapait la tête contre les murs, elle me disait, je suis malade. Je suis si laide, puis toi, de toute façon, moi je te déteste. Car t'es la seule chose qui m'empêche de me jeter par la fenêtre. Ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette gola, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. Puis toute manière, elle m'avait tout pris. Même ma mère me l'a dit, elle va te faire tomber malade. Et moi je suis tombé malade. Et même si j'ai eu du mal à le dire, j'ai dit, toi et moi c'est fini.
Donc on a parlé des grands thèmes abordés par Dario Fo, par Franck Aramé et par vous-même, Bernard Lévy. C'est une farce donc, vous utilisez les portes qui claquent, les courses des personnages dans tous les sens du terme d'ailleurs. L'armoire penchée, expliquez-moi pourquoi l'armoire est penchée.
Oh, c'est pas l'armoire, c'est le décor qui est penché. C'est oui. Tout le décor. Oui. Le sol penche d'un côté, un mur de l'autre. L'armoire. Enfin, on est dans un univers instable. Oui. J'avais pas envie d'être dans une sorte de naturalisme, peut-être misérabiliste ou.
Ça ne l'est pas. Hein.
Oui, oui. J'avais pas envie. C'est pas du reportage. C'est pas du documentaire. C'est pas du. C'est forcément quelque chose qui est sublimé. Donc je voulais pas, voilà, c'est le travail qu'on a fait avec le scénographe.
Oui.
C'est plus proche de l'absurde que
c'est ça.
Enfin l'absurde donc
oui.
Pas vraiment non plus, mais voilà, c'est instable.
C'est instable. Et puis, en même temps, vous parliez de misérabilisme, ça ne l'est pas du tout. Il y a une espèce de joie de vivre qui ressort de cette pièce, malgré tout, malgré les conditions extrêmement difficiles de vie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous emporte. J'en étais à citer les moyens de la farce et du burlesque. Bon, alors, je parle des olives qui fait mourir de rire le public, hein, c'est vrai. Et puis, les chorégraphies endiablées par moments, le petit clin d'œil au temps moderne. Bon. Et j'aimerais que nous citions vos comédiens qui sont, enfin les comédiens qui ont été choisis pour cette pièce, qui sont, alors on disait dynamiques, hilarants, et puis en même temps il y a du tragique hein, dans la condition de la femme, dans la condition ouvrière. Alors on va les citer s'il vous plaît. Donc Antonia, elle est jouée par
Anne-Élodie Sorlin.
Voilà, qui est remarquable. Vraiment. D'ailleurs, à la fin, moi, j'étais pas loin de leur visage, puisque j'étais au troisième rang. Et oh là là, mais je la sentais épanouie au bout de ces deux heures de course. Voilà, je la sentais heureuse. Je sais pas comment vous dire ça, mais bon, voilà.
Je crois que c'est le cas. Je crois qu'ils sont tous tellement heureux du succès qu'on a, de la rencontre avec le public. C'est très agréable quand on est comédien et que le public renvoie des rires.
Oui.
Une sorte de communion comme ça dans une histoire qu'on raconte en commun parce que le public est indispensable.
Exactement. Bah, puis là, on est vraiment, on se sent tellement concerné. On est avec
eux. Oui, c'est ce qui ressort. Ça ressort tout de suite. Là, les commentaires qu'on peut avoir, c'est au-delà du rire. C'est vous avez écrit, vous avez réécrit, c'est pas possible, c'est une telle actualité.
Oui, tout à fait. Alors Margherita, donc c'est autre chose, hein, c'est une autre personnalité, mais elle est très attachante aussi.
Oui, c'est le contrepoint,
voilà.
C'est-à-dire que l'autre est plutôt, il y a un rapport d'âge aussi, elle est plutôt une femme mûre qui a l'expérience et qui
fonce.
Vraiment une faconde comme ça, qui peut tout inventer.
C'est ça.
L'autre est une sorte de froussarde.
Oui.
Voilà, donc il faut forcément des écarts si on veut que ça fonctionne.
Voilà, alors Margherita est
interprétée... Elle est jouée par Flore Bablède.
Voilà, et qui est très très bonne aussi. Alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Giovanni, qui est interprété par...
Par Eddie Chignara.
Alors, il est excellent, celui-là, en Marcel, avec voilà sa façon d'être. C'est quand même un homme impressionnant. Et puis, en fait, il a une certaine douceur aussi. Bon, je l'ai trouvé très bien. Et puis, on va citer aussi quand même Luigi, bien sûr.
Alors, Luigi est joué par Grégoire Lagrange.
Voilà. Alors, ce sont donc les comédiens qui jouent les deux couples. Oui. Et puis, j'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu du rôle de la police et de la confusion des idées.
Non, en fait, c'est ça qui est génial dans la pièce. Dario Fo et Franck Aramé ont fait en sorte que ça soit le même comédien qui joue plusieurs rôles. Oui. Mais c'est dénoncé dans la pièce elle-même.
Oui, oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'il y a du théâtre dans le théâtre.
Exactement.
Donc le policier, l'acteur qui joue le policier joue aussi le gendarme, mais il joue aussi le père de Giovanni et ainsi qu'un croque-mort.
Voilà.
Ces rôles-là sont joués par Jean-Philippe Salerio, qui est formidable.
Oui.
Après, je complète la distribution avec le deuxième gendarme, qui est un jeune acteur et qui est très drôle dans le travail corporel qu'il fait, qui est Élie Chaput.
Voilà, je crois qu'on a cité à peu près tout le monde, j'espère.
Oui.
Voilà. Le décor, donc, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, moitié enfermement, moitié ouverture sur la rue. On est en Italie, et sur ce qui se passe dans la rue. La musique, les lumières qui soulignent si besoin l'intensité de la farce. Et donc, pour terminer, mais vous m'avez finalement répondu tout à l'heure, vous avez à peine joué en 2021 à cause du Covid. Est-ce qu'il y a eu quelques remaniements pour cette version 2023 de On ne paie pas, on ne paie pas?
Oui, d'abord il y a eu un changement de rôle. Pour le rôle de Luigi, c'était un autre comédien. Et puis j'ai en fait, souvent le travail du théâtre se fait mûri presque tout seul. Donc sans rien faire, il y a une sorte de texte comme ça qui se dépose dans la mémoire des acteurs, ce qui fait que souvent c'est mieux quand les choses sont posées. Alors il y a eu ça, cette chose-là presque invisible, et puis des petites choses que j'ai changées, des petites choses que j'ai changées.
D'accord, très bien. Ben je laisse les futurs spectateurs aller se rendre compte par eux-mêmes. Aujourd'hui donc, 50 ans après la création de cette pièce, 50 ans après, les Français sont dans la rue. Donc, le constat est plutôt triste quand même, vous ne trouvez pas?
Oui, bien sûr.
On est toujours...
On ne peut rien dire d'autre que...
Ouais.
Oui, est-ce que réellement les choses changent?
Oui, c'est ce qu'on peut...
On peut se poser la question, donc je ne sais pas si... Ça pose une question qui est difficile à entendre, mais... Finalement, est-ce que c'est le combat politique qui fait réellement changer les choses?
Oui, eh bien, écoutez, on restera sur cette interrogation qui ne sera pas avec une réponse dans l'immédiat, en tout cas.
Non.
Est-ce que vous pouvez rappeler les dates, les horaires et le lieu, donc la Tempête à la Cartoucherie?
Le théâtre de la tempête, à la Cartoucherie, ça se joue jusqu'au 18 mars. Tous les jours, sauf le lundi, relâche à 20h et le dimanche à 16h.
Très bien. Bah, merci beaucoup Bernard Lévy d'avoir parlé de votre mise en scène et de cette pièce qu'il faut absolument aller voir. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup Hélène, merci à Bernard Lévy, c'est une pièce absolument extraordinaire. On va marquer une petite pause et appeler Alain Françon pour le Beckett. Entretien d'Agnès.
Dans Godot.
Voilà.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun lights up the dark.
Alain Françon, bonjour.
Oui, bonjour.
Grand metteur en scène de théâtre. Hein, on ne vous présente plus. On vous connaît. Votre carrière est bien évidemment impressionnante. Hein. Vous avez dirigé le CDN de Lyon dans les années 90, puis le CDN de Savoie à Annecy, directeur de la Colline de 1996 à 2010. L'an dernier, donc 2021, vous avez monté la seconde surprise de l'amour de Marivaux. Et là, nous allons donc parler de En attendant Godot, votre dernière mise en scène au Théâtre de la Scala, hein, jusqu'au 8 avril.
8 avril, je crois.
Alain Françon, je rappelle juste le thème, hein, enfin le pitch, le résumé. Alors de En attendant Godot, pardon, Théâtre de l'absurde. Deux hommes attendent un troisième qui doit leur donner peut-être du travail ou un refuge. Alors qu'ils discutent, apparaissent finalement deux autres hommes, Pozzo et Lucky. Le second étant l'esclave du premier qui est muet et épuisé. Alain Françon, votre création est saisissante. J'ai adoré la toile peinte en fond de scène dans les tons noir-gris hein, qui peuvent figurer aussi bien d'ailleurs le haut d'un ciel menaçant, en bas la boue. Alors ce qui ressort de votre mise en scène, c'est l'amour du verbe, l'exigence des interprétations. Alors, vous aviez monté Alain Françon en 2011, je crois déjà, à Beckett. Voilà, alors vous revenez, c'est ça, 10 ans après, à Samuel Beckett ?
Oui, j'avais monté fin de partie, puis dans la foulée, j'avais monté la dernière bande. Et oui. Puis j'avais fait aussi l'adaptation d'un texte pas fait pour la scène de Beckett qui s'appelle Le Dépeupleur. Et puis là, Godot. Mmh. Godot, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais comme c'est la première pièce, j'étais plus intéressé par fin de partie, en fait. Et puis, je m'y suis mis, et quand j'ai relu Godot et tout ça, j'avais très envie de le faire. Parce que c'est... En fait, on dit toujours Godot, et en fait, on oublie en attendant. Et ce que je trouve le principal, enfin, quand on met la pièce en scène, à mon avis, ce qu'il faut mettre en scène, c'est le en attendant. Godot, bon, même Beckett lui-même a toujours refusé de donner la moindre explication, évidemment, avec si on pense dans une autre langue, on pense à Dieu, etc., on peut penser, mais là, je trouve que la pièce, en fait, n'est pas si métaphysique que ça, la pièce, elle est profondément humaine, je pense que Beckett, c'est vraiment un auteur du réel, donc ces deux personnages, même s'ils ressemblent à... Je ne sais pas, des clochards célestes ou comme, je ne sais pas comment on peut les appeler, même si ils ressemblent à ça, ils sont comme nous, ils attendent. Et moi, c'est ça que je voulais mettre en scène, des gens qui attendent et qui ont à la fois l'humour et la tragédie de leur attente.
Oui. Alors, c'est pas votre préférée, c'est ça? C'est pas votre pièce préférée de Beckett, mais pour vous, elle est primordialement intéressante.
Maintenant que j'ai travaillé, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une pièce magnifique. Les premières fois que je lisais la pièce, je trouvais qu'elle était un peu trop marquée par... je crois que Beckett se méfiait beaucoup du théâtre quand il a commencé à écrire. Il était plus dans une forme... on dirait clownesque aujourd'hui, quoi. Il préférait les clowns que finalement les artistes dramatiques, je crois. Donc, je trouve qu'elle était un peu impressionnée de ça, la pièce. Et puis, finalement, je préférais fin de partie, mais maintenant que je l'ai montée, je trouve que c'est une pièce immense, enfin, qui n'a pas de fond. Je veux dire, on peut faire autant de mises en scène que, oui, c'est une pièce universelle, quoi.
Est-ce que c'est pas aussi une pièce sur les relations dans notre société, le pourquoi de notre vie, un peu la nature de l'homme qui est, nous sommes un peu impuissants, incapables de comprendre l'immensité qui nous entoure. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans En attendant Godot?
Ah ben je pense que oui, c'est-à-dire que je pense que les deux personnages sont vraiment liés par je sais pas, ils sont presque, ouais, enfin, ils sont liés par une profonde tendresse et par une profonde habitude et en même temps par certains énervements l'un par rapport à l'autre. Mais je crois que les deux sont profondément démunis dans leur condition d'être humain. mais démunis dans le sens où j'ai toujours l'impression qu'ils travaillent pour nous, quoi, que les questions qui se posent sont finalement des questions existentielles que nous, on peut se poser. Je sais pas, d'un coup, il y a une anecdote qui me vient, mais vous savez, maintenant, ça fait un an et demi, j'ai subi une agression assez violente.
Oui, oui, oui.
Je pourrais très bien ne plus être là, et je suis là, et je suis content d'attendre, voilà. Donc le mot attendre me vient là, quoi. Parce que, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, dans la pièce, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire toutes les questions auxquelles ils se confrontent, et à la comédie, parfois, qu'ils se donnent de s'interroger, de s'auto-interroger. Et tout ça, je veux dire, sur un mode qui est, je sais pas comment dire, c'est... je crois que Beckett, il supportait pas la moindre interprétation. Donc, il n'y a pas de... Là-dedans, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'idéologie, il y a simplement la condition humaine qui, d'une certaine manière, même si c'est entre ciel et terre dans le décor, on ne sait plus si c'est le ciel, si c'est la terre, effectivement, ce que vous disiez, ben, c'est la condition humaine qui est là, quoi.
Oui, donc cette pièce résonne d'autant plus en vous avec ce qui vous est arrivé, hein, bien évidemment, l'an dernier. Quand on monte du Beckett, est-ce qu'on a certaines libertés? Est-ce que vous avez ajouté vous-même de la tendresse au personnage?
Oui, je pense qu'il y a une lecture personnelle, et puis je pense aussi que c'est très lié à une distribution. Il y a 5 acteurs sur le plateau, et je les trouve tous merveilleux, et en particulier André Marcon et Gilles Privat qui font Vladimir Estragon, je veux dire, sont des acteurs qui justement transpirent tous les deux d'une profonde humanité, ce sont des très très grands acteurs. La pièce, on peut pas la monter si on n'a pas ces solistes-là, quoi, je veux dire, c'est... ouais, et puis si vous voulez... En fait, on croit tous qu'on connaît beaucoup la pièce, mais en fait, Beckett lui-même l'a mis en scène 2 fois, au Schiller en Allemagne, à Berlin, et aux États-Unis à Saint-Quentin. Et les 2 fois, sauf qu'en France, on est des paresseux et on l'a pas fait paraître, mais les 2 fois, il a remodifié la pièce, changé des didascalies, changé le texte, fait des coupes, et puis, en tant que metteur en scène, il posait des questions sans arrêt à l'auteur Beckett. C'est d'une intelligence d'ailleurs somptueuse, le metteur en scène qui interroge l'auteur. Et donc, en plus, après, il y a des notes de mise en scène, des dessins et tout ça. Et tout ça est paru à Faber et Faber en Angleterre. Je crois que là, ça est en train de paraître en Italie. Et puis, c'est paru aux États-Unis. Mais en France, on n'a pas ça. Et c'est un ouvrage énorme, hein. Je veux dire, l'ouvrage sur Godot, entre les modifications de texte et toutes ces notes, ça fait 350 pages. Et c'est formidable à lire. C'est une chose qui inspire totalement, quoi. Et on voit bien que finalement, les idées qu'on a sur En attendant Godot sont des idées qui sont relativement... Bon, c'est des idées reçues, quoi, en fait. Parce que lui-même, quand on le voit s'interroger sur sa pièce, c'est magnifique.
Ouais. Parce que les deux duos, donc Vladimir et Estragon, le premier duo, on a l'impression un peu qu'ils... Finalement, ils sont un peu philosophes, hein. Ils parlent de l'existence, du temps, de Dieu. Vladimir, lui, il est plutôt, je veux dire, simplet, non? Est-ce qu'on peut dire ça? Et Estragon...
Beckett, il en donne une définition très concrète. Il dit, Vladimir, il est comme l'arbre. C'est-à-dire que finalement, il réfléchit, il travaille du chapeau, quoi, en fait. D'ailleurs, de temps en temps, il enlève son chapeau, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, Estragon, c'est plutôt la terre, les pieds, il a mal aux pieds, il boite, il pense toujours à s'asseoir sur sa pierre. Donc, c'est comme s'il y en avait un qui était plutôt attiré par le sol. Et même, à un moment, je crois que Estragon, il parle du sous-sol. Et l'autre, il est plus... d'ailleurs, il lui dit, à un moment, il dit à Vladimir, fous-moi la paix avec tes paysages, parle-moi plutôt du sous-sol. Donc, c'est comme s'il y en avait un qui était très aérien et toujours parti comme l'arbre, un peu en l'air, et l'autre profondément terrestre.
Plus réfractaire, peut-être, hein, Estragon. Ouais. Mais lui, on a l'impression qu'il ne se rappelle de rien. Enfin, non, c'est pas... Il veut attendre.
Ben, c'est-à-dire qu'ils sont... je pense que jusqu'à Beckett, l'espace-temps, c'était simplement la matrice pour développer une pièce où on racontait une histoire. Ici, il se trouve que le temps et l'espace sont l'histoire elle-même. Donc, c'est comme si le temps, pour eux, était une notion qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est la mémoire quand le temps finalement n'existe pas, et quand on ne sait plus, l'espace, c'est tellement un no man's land qu'on ne sait plus si on était à tel endroit hier ou avant-hier, et encore même hier, ça ne veut rien dire, et avant-hier non plus. Les seules choses, les deux autres personnages, par contre, sont des personnages qui, eux, sont avec le temps, parce que, en fait, c'est comme des personnages d'histoire, c'est-à-dire que, en fait, si on avait à représenter l'humain, comment dire, finalement, le duo maître-esclave, c'est une manière de représenter une humanité, quoi. Et cette humanité se trouve qu'elle est historique, et que, en fait, donc, eux deux, par exemple, ne font que passer. C'est-à-dire que eux deux sont dans un temps, alors que les deux autres ne sont plus
Ils sont dans l'attente. Les deux autres sont dans l'attente.
Ils sont juste dans l'attente, ouais.
Alors que Pozzo et Lucky viennent en plus.
Oui, absolument.
Voilà. Alors, quelque chose dont je voudrais vraiment parler, cette palette de couleurs dont vous êtes vraiment le maître, hein, l'artiste. Palette de couleurs. Donc, déjà, on est un peu dans les bleu-gris, hein, c'est ce que je disais avec le fond, hein, entre chien et loup, avec ces paysages brumeux, hein, toile de fond, et le gris qui ensuite qui s'anime. Hein, et on a l'impression qu'il y a des additions de couleurs. Je pense à Pozzo, par exemple, sa chemise rouge. Le garçon, hein, la chemise jaune et bleue, le vert des arbres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Vladimir et Estragon qui sont un peu en blanc, enfin grimés en blanc. Le visage de Pozzo, un peu rougeoyant. Est-ce que c'est pas des couleurs qui viendraient de l'extérieur pour remplir un vide?
Oui, on peut le penser comme ça. Enfin. Avec la costumière, avec Marie Larocca, ça m'intéressait beaucoup que, par exemple, Pozzo, disons la figure du maître, bon, on ne sait pas d'ailleurs si c'est un gentleman farmer, si c'est un fermier, si c'est un châtelain, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est un propriétaire, et ça m'intéressait qu'il ait, qu'il amène de la couleur dans cet univers absolument. Terre et ciel confondus, ce que je disais tout à l'heure. Et de l'autre côté, Lucky, l'esclave,
le valet.
Dans les gris, blancs, comme ça, enfin, voilà. Et puis le jeune homme, alors c'est marrant d'ailleurs parce que je me suis dit que le jeune homme, finalement, Vladimir interroge tout le temps pour savoir si c'est lui ou si c'est son frère. Et donc j'ai fait en fait presque deux personnages, quoi. C'est-à-dire le premier arrive et est plutôt un peu dans les gris du décor et de l'espace, et puis finalement le deuxième, c'est peut-être c'est l'autre frère, enfin on ne sait pas, mais en tout cas lui il est beaucoup plus que contemporain, je trouve, avec un blouson un peu bleu ciel et puis une chemise jaune. Ça.
Oui, un peu cinéma des années 50.
Oui. Oui.
Oui, avec beaucoup de lignes répétitives, justement, ce garçon, ce cinquième personnage.
Allô?
Oui. Je parlais de ce cinquième personnage, le garçon peu dans le style cinéma des années 50, avec beaucoup de lignes répétitives.
Oui.
Pour le garçon.
Ah oui. Ah oui, quand il l'a créé à Berlin. Beckett, il l'a fait jouer par une jeune fille, en fait, qui avait un côté plus angélique que ce qu'on fait, quoi, et qui répondait d'une manière assez évanescente, oui monsieur, non monsieur, oui monsieur, oui monsieur. En fait, c'est vrai que c'est très répétitif. Et sinon, qu'il vient chaque fois pour dire que Godot ne viendra pas et qu'il faut attendre demain.
Et qu'est-ce qu'il représente alors, ce garçon, ce cinquième personnage?
Très difficile à dire. Ce qui est intéressant, c'est la jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est il rentre et il sort. Donc, il n'est pas prisonnier de l'espace ni du temps. Et comment dire, même si on pourrait penser que c'est le contraire, moi, je pourrais y voir presque, disons, la mélancolie de l'espoir, quoi. Une chose comme ça.
Oui, oui, ou peut-être la l'espoir. Peut-être l'espoir, oui, oui. Alors justement, est-ce que vous avez donné un peu cet espoir plus que dans la normale?
Oui, je pense que oui, mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en travaillant d'une manière très précise le texte, enfin je veux dire, mais de manière sonore, c'est-à-dire prosodiquement, en travaillant le texte, je me suis rendu compte que il y avait des charges qui étaient... Je n'ai pas le mot, elles sont pas émotives, mais il y a du sentiment dedans, il y a de la tendresse, il y a de la haine aussi, enfin je veux dire, et ce que je voulais essayer de donner, c'est de pas parce qu'en général j'ai vu des représentations finalement où les deux personnages principaux sont plutôt des figures je dirais un peu grotesques, un peu imaginaires, un peu Vous savez, il y a cette phrase que moi j'aime pas, mais on dit les pensées de Pascal jouées par les Fratellini, quoi. Mm-hmm. Moi, je voulais pas ça. Je voulais les pensées de Pascal, pourquoi pas. Mais ce que je voulais, c'était de l'humain, quoi.
Avec un parti pris peut-être plus populaire.
Oui.
Vers le bon, pas du musical, mais un peu. Ça chante, ça danse.
Oui. Oui, oui, mais il faut trouver la bonne manière de le faire. C'est-à-dire que si on insiste trop, ça devient formel. Donc il faut trouver la bonne manière existentielle de le faire, quoi.
Le juste équilibre, justement, avec un peu de gouaille de temps en temps. Hein, je pense aux intonations, par exemple, d'Estragon.
Pardon.
Je pense aux intonations d'Estragon avec un peu de gouaille dans la langue.
Oui, 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 mais ça, par exemple, c'est André Marcon, c'est un acteur que je connais bien depuis longtemps, puisqu'on a commencé presque à faire du théâtre ensemble, donc il y a longtemps, et je trouve qu'il a cette force humaine comme ça. Et oui, oui, j'aime bien ce que vous dites. En fait, le mot populaire, il me gêne pas. Au contraire, c'est oui, pourquoi pas.
Mm-hmm.
Pourquoi pas, oui. Ouais. Enfin, si c'est dans le bon sens du terme, quoi.
Merci, merci beaucoup. Merci Alain Françon. Nous allons conclure sur ce mot-là. Donc, je répète, en attendant, d'accord. Godot, c'est donc à la Scala, dans le 10e arrondissement à Paris, jusqu'au 8 avril, le soir à 21h, du mardi au samedi 21h, le dimanche à 17h, et représentation samedi 11. Exceptionnel à 15h. Voilà. En attendant, merci. Godot, je cite juste les comédiens. Hein. Donc, mis en scène, oui. Alain Françon, avec Gilles Privat, André Marcon, Guillaume Lévesque, Éric Berger, Antoine Heulet, décor Jacques Gabel et lumière Joël Urbecht, costume oui. Marie Larocca. Merci beaucoup, Alain Françon.
Merci beaucoup, Agnès. Merci, Alain Françon. Ainsi se termine donc ce numéro de Empreinte sur IDFM 98. Merci, Francky. On se retrouve la semaine prochaine. Do 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 do